Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faites un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CMDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de coût marginal, de voitures électriques et de Vladimir Poutine. On part d'un constat initial. Les prix de l'énergie sont de plus en plus chers.
On va évidemment parler, messieurs, ce matin de la flambée des prix de l'énergie qui concerne le gaz, bien sûr, mais aussi les carburants et l'électricité.
Quelle sera l'ampleur de cette hausse, d'abord ?
Et les prix de l'électricité vont augmenter début 2022, en février 2022 notamment.
Mesures temporaires que les pays européens vont pouvoir appliquer pour baisser les prix de l'énergie sans aller à l'encontre des règles européennes.
Quand on parle de l'énergie, ça recouvre en fait trois choses. Le gaz naturel, l'électricité et le pétrole. En France, les énergies fossiles sont très largement importées. On ne produit plus de gaz ni de pétrole, ni dans l'Hexagone, ni dans les Outre-mer. En revanche, l'électricité est produite localement. Cependant, comme on va le voir, son prix n'est pas fixé uniquement par la production française, mais par l'ensemble du marché européen. Ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est donc notre dépendance aux énergies fossiles. Et dans une moindre mesure, notre dépendance à l'énergie tout court. On ne peut pas continuer à avoir la même activité économique avec des prix de l'énergie bien plus élevés. Or, il y a des chances que ce ne soit pas qu'un accident conjoncturel, mais plutôt une évolution structurelle. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est donc, comment faire face à la hausse des prix de l'énergie, non seulement à court terme, mais aussi à long terme? Vous aurez compris qu'on va parler, ce faisant, de la transition énergétique qui va devoir être organisée bien plus rapidement que ce à quoi on s'attendait jusqu'en 2019. Et au passage, on va faire un peu de théorie microéconomique. Non mais ne partez pas, ça va être très simple. Doit-on s'habituer à la flambée des prix de l'énergie?
Alors oui, effectivement, on ne parle pas des mêmes facteurs pour le gaz, l'électricité, puis pour le pétrole. Alors il y a un facteur commun, évidemment, qui est la reprise de l'activité économique suite aux mesures de confinement et au confinement des populations suite à l'épidémie de Covid.
Je vous présente Boris Sollier, maître de conférences en économie à l'Université de Montpellier et directeur du Master Économie de l'énergie. Il nous rappelle que la hausse des prix observée en cette fin d'année 2021 vient d'un phénomène qui est au départ une très bonne nouvelle. L'économie repart, les entreprises produisent de nouveau, les transports reprennent et on a donc besoin de pétrole, d'électricité et même de charbon d'ailleurs. Mais le cœur du problème, c'est le gaz.
C'est vrai qu'il y a des facteurs un peu spécifiques aux différentes énergies, mais aujourd'hui, ce qu'on observe essentiellement, c'est une crise qui, au départ, part du gaz naturel. En fait, c'est une augmentation forte des prix du gaz naturel avec des explications plutôt conjoncturelles et puis des explications structurelles. Donc, les explications conjoncturelles, s'agissant du gaz naturel, c'est la reprise de l'activité économique qui va tirer fortement la demande de gaz dans un contexte où l'activité économique repartant, la demande d'énergie repart fortement et donc notamment la demande de gaz. Et à cela, c'est ajouté des difficultés d'approvisionnement, notamment en Europe, dans un contexte où les stocks de gaz étaient assez bas. Donc ça, c'est un facteur important, puisque l'hiver dernier a été plutôt long et rigoureux, ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé au printemps dernier avec des stocks de gaz assez faibles. Il a fallu les reconstituer donc avant l'été, dans un contexte où les prix du gaz augmentaient, donc ça coûte cher.
À l'heure actuelle, les prix du gaz sont fixés par des contrats à court terme et non par des contrats longs. Avec la libéralisation de ce marché à l'échelle européenne, on a favorisé le court-termisme, ce qui a permis de profiter pendant un temps de la faiblesse des prix, en partie due à l'ouverture de la concurrence d'ailleurs. Mais ce n'est plus le cas.
C'est d'ailleurs aussi l'une des raisons évoquées à demi-mot par le président Poutine dans sa déclaration. Il a dit aux Européens, vous voulez avoir des marchés du gaz, vous voulez sortir des contrats de long terme. Et donc aujourd'hui, vous avez des marchés spot du gaz avec des prix qui augmentent quand l'offre est forte. L'avantage des contrats de long terme, c'est qu'ils permettent une certaine stabilité des prix du gaz dans le temps. Sur les marchés spot, les prix dépendent de l'offre et de la demande. Donc les prix augmentent aujourd'hui puisque la demande augmente fortement et que l'offre est assez contrainte.
Pourquoi Vladimir Poutine peut-il tenir la dragée haute aux Européens? Parce que nous lui achetons 40% de notre gaz. Enfin, pas à lui directement, mais à des entreprises russes dont les dirigeants ont, disons, des liens privilégiés avec le président Poutine.
Les copains d'abord, les copains d'abord.
Le reste de notre consommation de gaz vient de Norvège, d'Algérie et de bien d'autres endroits dans le monde qui nous livrent avec des méthaniers, ces bateaux très impressionnants qui transportent du gaz liquéfié et qui ont d'ailleurs plutôt tendance à se diriger vers la Chine en ce moment parce que la reprise de la croissance y est très vive. Restons un moment sur le court terme, ce qui se passe depuis quelques mois et comment ça va se poursuivre. L'augmentation des prix du gaz, c'est un problème pour les particuliers qui se chauffent ou qui cuisinent avec. C'est aussi un problème pour les entreprises qui en consomment. Mais de manière plus surprenante, ça a un effet sur les coûts de production de l'électricité.
Le coût de production de l'électricité va déterminer le prix dans la mesure où on va faire appel aux moyens de production par ordre croissant de coût de production, de coût variable de production. Donc, le coût variable de production, c'est typiquement le prix d'achat du combustible. Donc, pour les énergies renouvelables, ce coût, il est très faible, mais il est nul. Et pour les énergies carbonées, il est important. Donc, quand la demande d'électricité est faible, on va utiliser en priorité les énergies renouvelables qui produisent un coût marginal nul, puis le nucléaire. On va faire ensuite appel, à mesure que la demande augmente, à l'hydraulique notamment, puisque l'hydraulique, c'est l'un des moyens qu'on a pour, dans le secteur électrique pour stocker l'électricité, puisqu'on peut utiliser l'eau contenue dans les barrages, la turbiner et produire de l'électricité au moment qu'on le souhaite. Donc, on utilise généralement les barrages hydrauliques pour produire de l'électricité en période de pointe, quand la demande est forte. Et puis ensuite, on va faire appel aux centrales à charbon, aux centrales à gaz. Et donc, si vous voulez, à mesure que la demande d'électricité va augmenter, le coût de production marginal, le coût variable de production augmente, pour refléter le fait qu'on fait appel à des centrales à coût de plus en plus élevé. Et le prix d'électricité, à un moment donné, sur le marché, va se caler sur le coût de production de la dernière unité qui permet de satisfaire la demande. Et ensuite, tous les autres moyens de production vont vendre leur électricité à ce prix-là. Donc, mécaniquement, ça fait que quand la demande d'énergie est importante et qu'on va utiliser beaucoup de moyens de production, on va avoir plus souvent les prix qui vont être calés sur les coûts de production de ces centrales fossiles. Et en Europe, le gaz, c'est quand même 20% de la production d'électricité. Donc, souvent, le prix d'électricité sur les marchés de gros en Europe est déterminé par les coûts variables de production de la centrale à gaz.
Ça, c'est un raisonnement important à comprendre. Sur le marché de gros, là où de grosses entreprises comme EDF, Enel en Italie ou RWE en Allemagne s'achètent et se vendent des mégawatts produits, le prix se fait par la rencontre entre l'offre et la demande. Mais on parle ici d'un marché où il n'y a pratiquement aucun stockage possible. Donc, si toutes les centrales nucléaires et toutes les éoliennes et tous les barrages hydroélectriques sont déjà à plein régime, alors c'est le coût de production de la dernière unité mise sur le réseau qui détermine le prix. En microéconomie, on dit que c'est le coût marginal de production qui détermine le prix.
Donc aujourd'hui, si vous voulez, les prix de l'électricité, ils augmentent aussi fortement. On avait l'an dernier les prix d'électricité qui étaient sur le marché en France autour d'une trentaine d'euros sur le marché spot, donc sur le marché d'échange la veille pour le lendemain. Ils sont aujourd'hui autour de 150 à 200 euros à certains moments, ce qui veut dire que les prix d'électricité ont fortement augmenté.
Vous allez me répondre, surtout si vous avez écouté notre précédent épisode sur EDF, que ce n'est pas valable pour la France, parce qu'on n'a quasiment plus de centrales à charbon ni à gaz. Ok, mais dans la mesure où les réseaux de transport d'électricité européens sont bien interconnectés, le prix de gros est à peu près le même entre la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et à vrai dire, si l'hiver est très rigoureux en France, on fait redémarrer nos centrales à gaz. Et puis en Europe, on n'a pas tant que ça de centrales d'électricité qu'on appelle pilotables, celles que l'on peut faire démarrer au moment où on a besoin, par opposition à une éolienne par exemple.
L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on ferme beaucoup de ces moyens pilotables. Notamment, on ferme des centrales à charbon, puisqu'il faut décarboner la production d'électricité. Donc, on ferme un certain nombre de centrales à charbon. On ferme des centrales nucléaires. Donc, on a fermé Fessenheim en France. Les Allemands sont en train de sortir du nucléaire. Les Belges souhaitent aussi aujourd'hui sortir du nucléaire. Donc, on ferme un certain nombre de centrales électriques qui permettent de réagir aux variations de la demande. Et on n'ouvre pas suffisamment on développe pas suffisamment les énergies décarbonées et surtout les moyens de flexibilité qui permettent de mieux gérer la montée en puissance de ces énergies renouvelables dans le mix électrique.
Donc, les entreprises comme EDF et Engie, l'ancien gaz de France, ont à la fois une demande importante et des coûts de production qui s'élèvent. Vous voyez venir le résultat, c'est le client qui va payer la facture. D'autant plus que la demande d'énergie est très inélastique par rapport au prix. En clair, même une variation importante du prix ne change pas beaucoup les quantités achetées. Si vous êtes locataire d'un appart chauffé au gaz, vous n'allez pas changer la chaudière même si le prix augmente. Sauf que les tarifs pour les clients ne sont pas déterminés uniquement par les coûts de production.
Seulement un tiers de la facture qui est déterminée par la matière première, le gaz, la molécule de gaz ou le kilowattheure d'électricité. Donc les deux tiers de la facture payée par les consommateurs sont des taxes ou des péages d'accès au réseau. Donc, à la fois sur l'électricité et sur le gaz, vous avez un tiers de la facture qui sont les coûts de production et les coûts de commercialisation de l'électricité ou les coûts d'approvisionnement pour le gaz. Et vous avez ensuite un tiers qui est les péages d'accès au réseau de transport et de distribution. Donc, ces péages d'accès sont fixés par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Donc là, on n'est pas sur des prix de marché, hein, c'est des tarifs qui sont fixés par les pouvoirs publics. Et vous avez un autre tiers qui sont les taxes qui pèsent sur le gaz et sur l'électricité. Donc les deux tiers de la facture sont quand même régulés, même si on est aujourd'hui dans des environnements de plus en plus libéralisés.
Alors, si vous avez bien suivi, il y a des leviers pour faire en sorte que les tarifs payés par les clients finaux, les ménages et les entreprises, n'augmentent pas trop, pour l'électricité en particulier. Près de 70% des ménages ont encore une offre au tarif réglementé. C'est le cas pour seulement un tiers des ménages pour le gaz, où les offres de marché ont eu bien plus de succès ces dernières années. Mais en tout cas, l'État pourrait peser sur près des deux tiers des tarifs de ses énergies en France, via la réglementation et la fiscalité. Et d'ailleurs, il a commencé à le faire. Le gouvernement a pris trois mesures pour cet hiver, la période où l'on consomme le plus de gaz et d'électricité. Premièrement, le plafonnement de la hausse du tarif régulé de vente d'électricité. Deuxièmement, un gel des tarifs du gaz jusqu'en 2023. Et troisièmement, une rallonge de 100 euros pour le chèque énergie que touchent les ménages aux revenus les plus modestes. Ah non, excusez-moi, ça c'est ce qu'avait prévu le gouvernement, mais nos chers sénateurs ont préféré réserver ces aides à encore moins de monde. Donc, bonne nouvelle, les prix de l'énergie n'augmentent pas trop grâce à la vigilance de notre gouvernement. Dans les faits, c'est difficile de se réjouir de l'ensemble de ces mesures. Celle qui paraît la plus sensée, et qui aurait pu d'ailleurs être encore plus importante, c'est le chèque énergie. Boris Sollier.
Au début de la crise énergétique, il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé effectivement une rallonge de 100 euros du chèque énergie à destination des ménages modestes. Donc ce chèque énergie, il a été mis en place il y a 4 ans, en 2018, et il a été mis en place au départ en remplacement des tarifs sociaux d'énergie. Donc, il existait avant des tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité qui faisaient que vous pouviez payer moins cher un certain volume de kilowattheures d'électricité ou de gaz. Et ces tarifs ont été remplacés donc il y a quelques années par le dispositif du chèque énergie qui consiste en une aide moyenne de 200 euros environ pour 5,8 millions de ménages en France. Donc, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 12% des ménages, donc environ 4 millions des ménages qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui consacrent plus de 8% de leurs revenus aux dépenses d'énergie. Et donc, ce chèque énergie, c'est une aide pour pouvoir faire face à les achats, notamment de gaz, de pétrole. Et par contre, il ne concerne pas le carburant utilisé pour la mobilité. Donc, c'est l'un des trous, si vous voulez, dans la raquette du chèque énergie. Et donc, le gouvernement a décidé de l'accroître de 100 euros. C'est une bonne mesure à partir du moment où ce chèque n'avait pas été revalorisé depuis son introduction en 2018. Donc, il n'y avait pas eu d'augmentation de ce chèque énergie, alors même que les prix de l'énergie ont quand même fortement augmenté depuis la période où on a introduit le chèque énergie.
Augmenter le chèque énergie, c'est donc un moyen de donner du cash aux ménages qui en ont besoin, sans toucher au mécanisme de fixation des tarifs. C'est une bonne mesure non seulement parce qu'elle permet aux plus modestes de continuer à se chauffer, mais aussi parce qu'elle ne change pas les prix. Il se trouve simplement que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Enfin, ceux qui en ont besoin. Et ceux qui sont suffisamment riches pour changer leur chaudière ou faire des travaux d'isolation de leur maison, eh bien on ne les aide pas, du moins pas par ce biais, parce qu'il y a aussi d'autres subventions en la matière. Mais passons. En revanche, quand on commence à toucher aux prix, pour parler clair, à absorber une partie de la hausse des prix via une réduction de la fiscalité ou un plafonnement des tarifs, eh bien ça fait froncer les sourcils aux économistes, parce que ça introduit des distorsions.
Et on n'envoie pas le bon signal aux ménages, puisqu'on leur dit « si à chaque fois que les prix de l'énergie augmentent, vous en faites pas, on va geler les prix ». Donc ça, c'est pas un bon signal. Il vaut beaucoup mieux accompagner les ménages avec des aides directes, et notamment les ménages précaires avec des aides directes, que geler les prix qui vont bénéficier, si vous voulez, à l'ensemble des consommateurs, alors qu'on sait que certains ont des capacités de faire face au choc des prix beaucoup plus importantes que d'autres.
C'est le deuxième point théorique important de cet épisode. Un prix, c'est un signal. Si je vois le prix du gaz augmenter de manière continue depuis des années, il y a un moment où je vais réfléchir à changer d'énergie pour faire la cuisine. Et c'est encore mieux si l'on sait à l'avance quelle sera la trajectoire de ce prix. Même chose du côté des entreprises. Les investissements s'orientent en fonction du coût des énergies, les unes par rapport aux autres. Donc, si le gouvernement appuie sur le frein dès que le gaz ou le pétrole commence à devenir trop cher, en baissant la fiscalité sur ses produits par exemple, eh bien les calculs des consommateurs et des producteurs vont être perturbés. Les voitures électriques sont moins chères grâce à un bonus fiscal ? Génial ! Plein de gens se mettent à en acheter, l'électricité devient trop rare et on met vite fait en service des centrales à charbon. On appelle ça un effet rebond et c'est évidemment à éviter. Le pire cas de figure, c'est l'imprévisibilité. Un gouvernement qui annonce qu'il soutiendra la sortie des énergies fossiles, mais qui baisse la fiscalité sur l'essence ou le gaz, c'est non seulement incohérent, mais surtout on ne sait pas bien s'il faut lui faire confiance lorsqu'il dit qu'il va baisser, ou augmenter, les prix de ses produits.
Contresens, ma chérie, tu as contresens.
Le deuxième problème posé par ces mesures de soutien, c'est celui qui se pose à plus long terme. Personne n'a envie de voir augmenter sa facture de gaz ou le prix de l'essence à la pompe, mais tout le monde sait bien qu'il faudra en consommer moins à l'avenir. Et même qu'il faudrait dès maintenant réduire les volumes consommés et produits.
Il faut qu'on sorte assez rapidement des énergies fossiles si on veut atteindre les objectifs de se sont fixés les nations dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire l'objectif de 2 degrés d'ici la fin du siècle. On sait qu'il faut atteindre rapidement la neutralité carbone autour de 2050 au niveau du monde, donc au niveau de l'ensemble des pays. Il faut qu'on atteigne cette neutralité carbone en 2050 si on veut viser le 1,5 degré, un peu plus tard si on veut atteindre le 2 degrés, mais ce qui veut dire qu'il faut sortir assez rapidement du gaz, du pétrole, du charbon, et donc ça a un coût. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont encore coûteuses par rapport aux énergies conventionnelles. La prospérité économique s'est construite sur l'abondance les prix faibles de l'énergie. Donc, la croissance mondiale s'est faite en grande partie sur les bas prix de l'énergie, c'est le moteur de l'activité économique. Et donc aujourd'hui, cette énergie abondante, peu coûteuse, pratique dont on dispose, il faut qu'on s'en sépare progressivement et qu'on la remplace par des énergies qui vont être plus coûteuses.
En fait, la hausse des prix de l'énergie, elle est absolument nécessaire pour rien d'autre que la survie de l'humanité sur la planète.
People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction.
Ça paraît grandiloquent, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Se réhabituer à acheter une énergie chère, car devenue plus rare. Alors, comment on organise ça? Les économistes ont déjà quelques idées là-dessus. Et certaines ont d'ailleurs déjà été mises en œuvre. Le marché européen du carbone, qui trouve ses racines théoriques dans de vieux articles de Ronald Coase en 1960 sur les externalités et leur réinternalisation. Pardon, je vous ai perdu. Boris Sollier le dit plus simplement que moi.
On a le marché des quotas de CO2 dont vous avez parlé. Ce marché des quotas de CO2 a été mis en place en 2005. Pendant longtemps, les prix du quota de CO2 sur ce marché ils ont été faibles. Donc, c'est un fonctionnement assez simple. C'est une façon, si vous voulez, de mettre en place une tarification carbone de façon implicite par rapport à une taxe où le prix du carbone est explicite. Donc, avec un marché de carbone, on va limiter la quantité de CO2 que peuvent émettre un certain nombre d'industriels, généralement les grandes entreprises consommatrices d'énergie fossile. Et on va permettre à ces entreprises ensuite d'échanger des quotas de CO2 pour faire émerger un prix du carbone. Avec une taxe carbone, au contraire, on va mettre en place un prix du carbone et c'est les entreprises qui, en réaction à ce prix, vont se déterminer leur niveau de production et d'émission de CO2. Donc, si vous voulez, le marché carbone en Europe, il a été mis en place donc en 2005 et pendant longtemps, les quotas de CO2 ont été beaucoup trop importants puisque les objectifs de réduction des émissions étaient trop faibles. Par exemple, jusqu'à 2020, on avait un objectif de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et cet objectif a été atteint dès 2013. Donc, pour, si vous voulez, contrecarrer cette évolution, cette baisse des prix du CO2, ce qu'a décidé la Commission européenne avec les États membres récemment, en début d'année, c'est de relever les objectifs de réduction d'émissions à 2030 pour passer d'un objectif de 40% à 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et ça a permis de faire remonter le prix très rapidement. Et aujourd'hui, on a un prix autour de 60 euros la tonne de CO2 en Europe, alors qu'on était encore à 30 euros en début d'année et à une quinzaine d'euros en 2019.
On offre donc aux entreprises la possibilité de s'échanger des quotas de pollution. Des droits à polluer? Ça paraît scandaleux, ce truc. Mais en fait, que se passerait-il si ce marché n'existait pas? Les centrales électriques à charbon, les cimenteries et les usines d'aluminium continueraient à polluer gratuitement. À l'heure actuelle, si elles veulent continuer à polluer autant qu'avant, il faut qu'elles en payent le prix, en allant chercher des quotas de pollution qui ne sont pas gratuits. Et qui détermine le prix? Le marché, justement, en fonction du total des quotas définis par les pouvoirs publics européens. C'est une solution assez élégante, car décentralisée, au problème des émissions de CO2. Comment faire payer les pollueurs? Laissez-les se débrouiller entre eux, en leur donnant moins le droit de polluer qu'avant. Et c'est une des manières de mettre en place un prix du carbone. L'autre manière, c'est une taxe sur les émissions de CO2. Tout ça, ça concerne de grandes entreprises. Tant mieux si elles sont conduites à moins utiliser d'énergie fossile, si elles installent des panneaux solaires sur les toits des usines, et si elles électrifient leur parc de véhicules. Mais ça ne changera pas la facture de gaz de votre grand-mère. Sauf si l'on décide que votre grand-mère, elle aussi, paye une taxe carbone. Ça n'a rien d'impossible, même s'il faut éviter que le carbone soit taxé deux fois. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre en place cette fiscalité à la racine, dès la production. J'ai coutume de dire à mes étudiantes et mes étudiants qu'il y a deux choses sur lesquelles les économistes sont pratiquement tous d'accord et qui n'ont rien d'intuitif. Les effets néfastes du protectionnisme, qui l'emporte le plus souvent sur ses bienfaits, et les vertus d'une taxation du carbone, ou d'un marché de quotas. Boris Sollier ne me donnera pas tort sur le deuxième point.
La pensée dominante actuellement parmi les économistes consiste à mettre des signaux prix, notamment pour le carbone, puisque c'est la meilleure façon d'intégrer dans les décisions privées des agents, à la fois les producteurs et les consommateurs, le coût lié aux dommages climatiques engendrés par l'usage des énergies fossiles. Et donc, ça, c'est ce que recommande aujourd'hui la plupart des économistes, puisque optimale de modifier les comportements et la moins coûteuse pour avancer sur la sortie des énergies fossiles. Mais évidemment, le prix déjà du carbone ne suffit pas. C'est l'un des instruments nécessaires pour cette transition, mais ce prix ne suffit pas dans la mesure où, dans notre secteur, on va avoir besoin aussi de mettre en place des accompagnements. Alors, ça peut passer par des normes également, des instruments de type command and control. Alors, généralement, les économistes n'aiment pas trop les instruments de type command and control puisqu'ils sont des prix implicites du CO2. Donc, par exemple, quand vous mettez une norme sur les émissions des véhicules essence ou diesel, il y a un coût pour se conformer à cette norme. Et ce coût pour se conformer à cette norme, pour faire descendre les émissions en dessous d'un certain niveau, peut être parfois assez important et induire un prix implicite du CO2 très élevé. Donc, si vous dites, par exemple, aussi demain, vous souhaitez interdire les véhicules diesel ou essence des centres-villes, il y a un coût aussi associé à cette décision qui va être celui d'abandonner votre voiture et d'acheter une nouvelle voiture moins polluante.
En fait, augmenter le prix des produits polluants, c'est simple. C'est lisible, c'est transparent si vous préférez. Bien sûr, mettre en place des taxes, c'est impopulaire. Vous avez sans doute en tête l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, dont l'origine était une protestation contre la hausse de la fiscalité sur l'essence. Mais les grandes entreprises, elles aussi, savent revendiquer pour ne pas que leurs impôts augmentent. Ça explique les quotas trop larges des années 2000 sur le marché du carbone européen. Admettons alors que l'on a besoin de prix plus élevés, à terme, pour le gaz et le pétrole. Je laisse de côté l'électricité, qui peut être produite de manière plus verte. D'ailleurs, on a largement commencé à le faire en Europe. Comment on évite que la facture soit la plus lourde pour les plus modestes?
Si on reprend l'exemple du secteur automobile, on tombe souvent dans un millefeuille administratif où on empile un certain nombre de dispositifs d'aide. C'est vrai aussi pour le secteur du bâtiment où on va avoir plein de dispositifs d'accompagnement pour isoler les maisons, changer les fenêtres, etc. Et on se rend compte que ces aides bout à bout sont très coûteuses. Et elle bénéficie en plus souvent à des ménages qui avaient déjà les moyens de faire ces aides. Donc, elles sont aussi anti-distributives, ces aides. C'est-à-dire que de la même façon qu'une taxe carbone va peser en proportion plus fortement sur les ménages modestes qui consomment beaucoup plus d'énergie, qui ont une facture énergétique plus importante compte tenu de leurs revenus, ces aides-là aussi qu'on a mis par exemple sur les énergies renouvelables, les gens qui installent des panneaux solaires et sur les toits de leur maison, c'est généralement les classes aisées de la société. Ceux qui achètent aujourd'hui des véhicules électriques sont plutôt aussi parmi les classes aisées. Donc, ces aides-là sont des dispositifs qui sont à la fois coûteux en termes de finances publiques, qui ne sont pas forcément ciblés sur les ménages modestes, qui sont ceux dont il faudrait accompagner le plus rapidement. Et puis, elles sont ramenées à une tonne de CO2 réduite, elles sont très coûteuses. Donc, si vous voulez, implicitement, ça revient à faire payer à la société un coût du CO2 beaucoup plus élevé. Donc, sur ce point de vue-là, si vous voulez, les économistes, pour la plupart, sont assez d'accord sur le fait que le meilleur instrument pour orienter les décisions et pour changer les comportements, c'est l'instrument de tarification du CO2, puisqu'il est explicite, il permet de connaître le prix et de savoir ce qu'on finance, à quel coût, et de pouvoir arbitrer entre les meilleures solutions.
Il n'y a pas de solution miracle pour réduire notre dépendance à l'énergie fossile sans que personne ne paye la facture. Ça n'existe pas. Mais ce que fait remarquer Boris Sollier, c'est que pour l'instant, en France, on a un empilement de dispositifs illisibles, peu efficaces et qui coûtent cher aux finances publiques. Plutôt que des subventions pour rénover l'isolation de votre maison, mais seulement auprès d'un installateur agréé et en faisant attention au code de l'urbanisme, et attention, vos panneaux solaires ne sont pas conformes aux normes techniques européennes, plutôt que tout ça, donc, il vaut mieux une seule et même mesure qui touche au prix. Et dans ce cas, on peut verser des compléments de revenus aux ménages modestes, de manière assez large, pour accompagner cette transition. Et bien sûr, on peut trouver d'autres accompagnements possibles.
Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser d'autres types d'instruments dans la mesure où il y a beaucoup d'imperfections des marchés, où un prix du carbone ne suffit pas, par exemple, quand vous avez des ménages qui sont dans des logements très mal isolés et qui ne sont pas propriétaires de leur logement, un prix du carbone ne suffit pas à les inciter à isoler leur maison, à changer d'équipement, etc. Donc, il faut accompagner. Il faut notamment accompagner les ménages les plus précaires, qui, eux, sont les plus impactés par ces mesures. Mais quand même, le principe de mettre en place un prix du carbone pour orienter le comportement, évidemment, la théorie qui est dominante est celle qui permet d'atteindre la meilleure efficacité dans cette lutte contre le changement climatique.
Alors, conclusion. Est-ce qu'il faut s'habituer à une hausse des prix de l'énergie? Dans l'immédiat, ça risque de se poursuivre quelques mois, et même quelques années, le temps que les capacités de production reviennent à la hauteur de la demande mondiale. Pour les ménages français, une bonne partie de ce choc va être absorbée par les finances publiques. À terme, et si possible dans quelques années, notre consommation mondiale d'énergie fossile doit diminuer. On n'a pas le choix. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. Un prix du carbone élevé, qui augmente de manière prévisible, à une échelle la plus large possible. L'idéal serait pour le monde entier. Bref, l'énergie pas chère, c'est bel et bien fini.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories.
Est-ce que les ménages pauvres des économies riches font en payer la facture plus encore que les ménages riches? Ça, c'est une question d'accompagnement et de finances publiques. Donc, une question politique, qui ne peut pas être tranchée simplement par des économistes, et encore moins par un podcast. Splash est une émission de Nouvelles Écoutes. Elle est présentée et écrite par moi, Emmanuel Martin. Production et réalisation, Marine Roux. Coordination par Mathilde Jeunin. Mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.